Ciné.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Dans quelques secondes, on se retrouve avec une gourmande, Loana Belmondo, une gourmande très douée en cuisine. Elle viendra nous parler de son émission sur My Cuisine. Bonjour Loana, vous êtes déjà là dans le studio avec nous, ça va bien ?
Oui, bonjour Valérie, ça va bien.
Et puis à 10h30, on va parler de la cigarette électronique. Est-ce qu'elle est dangereuse pour la santé ? Est-ce qu'il faut l'interdire ? Elle a déjà été interdite en Inde, aux États-Unis. Certains États également pensent à l'interdire. Dites-nous si vous avez arrêté de fumer grâce à la cigarette électronique ou si au contraire, vous avez rechuté. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. À tout de suite dans quelques instants avec Loana Belmondo.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur Sud Radio avec nous aujourd'hui, avec Gilles Ganzone. Bonjour,
bonjour
Gilles.
Bonjour Valérie.
Loana Belmondo, on va parler cuisine avec Loana Belmondo, bonjour.
Bonjour.
À 10h30, on va parler de la cigarette électronique. Faut-il l'interdire en France ? Est-ce qu'elle est dangereuse pour la santé ? Vous saurez tout tout à l'heure. Et puis à 11h, on va commenter l'actualité, on va parler de la PMA, on va parler évidemment des manifs de ce week-end, tout ça au 0826 300 300. On va commencer. Vous avez regardé quoi à la télé, Loana, hier soir, vous?
Qu'est-ce que j'ai regardé hier soir? Non, j'ai bouquiné. Je me suis couchée très tôt. Oui.
Ah bon, vous n'êtes pas une accro de la télé?
Pas vraiment, c'est pas bien.
Vous n'avez pas cuisiné, vous n'avez pas fait des gâteaux?
Ah, si, je cuisine midi, soir, quand je suis à la maison tout le temps. Alors hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une seule, j'ai fait des pâtes pesto maison.
Et non.
Et ça va.
Voilà,
et ça va pour le soir, c'est pas mal déjà, non?
Voilà. Hier soir à la télévision, il y avait deux films, mais je vais vous donner un petit peu les audiences du week-end. Vous avez pu entendre ce matin avec Rémi Pernellet. Le carton de ce week-end, c'était Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, vendredi soir. 4 590 000 téléspectateurs, 23% de part de marché, ça cartonne. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé.
J'ai déjà regardé, c'est super. Et surtout, j'ai lu pas mal d'Agatha Christie.
Ah oui.
Et j'ai trouvé que c'est très, très bien.
C'est bien fait. Carton aussi, samedi matin pour le rugby. Je ne sais pas si vous êtes fan de rugby.
J'ai un fils, le dernier, qui joue au rugby, donc je l'ai gardé. Bravo la France.
Bravo la France.
4 279 000, 56% de part de marché, presque 57% pour le match entre l'Argentine et la France, 9h15. Donc il y avait du monde devant la télé sur TF1.
Pas, j'avais dit que ça serait peut-être compliqué pour l'audience.
Oui, c'est vrai, vous avez dit ça à Christian Jean-Pierre. Et le Gadin, c'est pour le lancement de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1. 3 586 000 téléspectateurs, 19,8% de part de marché. TF1 arrive en tête, mais c'est quand même 1 100 000 téléspectateurs de moins que l'an dernier. C'est le plus bas score historique de l'émission. Vous
êtes fan ? On danse un peu moins, alors je ne sais pas.
On ne vous a pas proposé de le faire ?
Non, pas encore.
Pas
moi,
encore.
J'aime bien les regarder, ils sont très courageux.
Mais est-ce que vous le feriez ? Est-ce que vous iriez danser ?
Je ne sais pas, vous savez, dans la vie, il n'y a jamais dire jamais.
Vous pourriez accepter ?
Je peux pas vous dire pour l'instant. Je continue à cuisiner.
C'est pas un non définitif. Et puis Cyril Hanouna également qui se plante, on peut le dire comme ça, le samedi soir à la place de Thierry Ardisson, 295 000 téléspectateurs. C'est
C'est presque un accident industriel. Ouais. C'est catastrophique.
Allez, on va écouter nos auditeurs. 0826 300 300. Vous connaissez le standard de Sud Radio. On a Christine en ligne avec nous. Justement, Christine, vous avez regardé Danser avec les Stars.
Oui, bonjour Valérie.
Bonjour.
Tout à fait. Moi, j'ai regardé Danse avec les Stars, tout à fait.
Et alors, ça vous a plu ? Vous êtes une fan de l'émission ?
Alors, pas fan éventuellement, mais bon, je regarde. Alors, la première émission, j'ai bien aimé parce que voilà, il y a. Bon, ça finit très tard par contre.
Ah oui, 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 ça c'est sur presque minuit.
Oui, c'est ça. C'est un peu l'inconvénient. Mais bon, moi, je trouve que celui qui a fait vraiment le show, c'est Yoann Riou. Il était à la fin, mais alors c'est celui qui m'a fait le plus marrer. Et on s'est vraiment régalé avec Yoann.
Je suis pas sûre qu'il aille très loin. C'est le gros souci de TF1.
C'est un peu le problème de TF1, parce que les gens, effectivement, l'aiment bien. Oui, Loana, vous le connaissez.
Ça, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé... Non, mais je compare un peu avec l'Italie. C'est-à-dire ce qui est... Alors, très bien. Mais en France, qui gagne, c'est toujours ceux qui savent déjà danser.
Ouais.
Car alors, il faut donner quand même bravo à ceux qu'ils arrivent un peu vierges de tout ça, qu'ils doivent apprendre.
Qui n'ont pas forcément le physique.
Tout va avec. Alors, je vais rien enlever à personne, mais c'est vrai que parfois on se retrouve en finale. Ouais. Moi, j'ai une petite frustration et je me dis, mais pourquoi quoi?
C'est ce que disait Jean-Marie Bigard, quoi. C'est, quand il l'a fait, il a dit, bah oui, il y a
c'est gagné d'avance.
C'est plus ou moins gagné d'avance. Et c'est vrai que ça va être compliqué pour TF1. Parce que Yoann Riou, c'est, ce qui fait
c'est un peu la
star
de, piment,
de l'émission. Vous regarderez la semaine prochaine, Christine ?
Oui, je regarderai juste pour savoir qui est éliminé.
Ah voilà. C'est un peu le jeu, c'est un peu le moteur de l'émission.
Et Christine, écoutez-nous, parce que demain, on recevra Elsa Esnou, qui nous parlera de sa prestation qui n'a pas convaincu.
Qui n'a pas convaincu, non, bah, on verra. Merci. Merci à vous, Christine. On a Caroline. Bonjour, Caroline. Pardon, Fanny est en ligne.
Oui, bonjour.
Bonjour Fanny. Qu'est-ce que vous avez regardé, vous?
Alors, moi, j'ai regardé hier soir Premier Contact.
Ah. D'accord. Et alors, racontez-nous pourquoi vous avez choisi ce programme?
Alors, parce que j'avais vu la bande-annonce qui m'intéressait pas mal, qui m'a interpellée. Par contre, en général, c'est pas ma tasse de thé, hein, la science-fiction, les extraterrestres. Mais je reconnais que c'était très bien tourné. Et puis, surtout, on s'aperçoit que les extraterrestres sont très gentils, donc ça passe.
Ça passe. Donc, ça vous a plu et c'était bien. Merci beaucoup. Merci, Fanny, de nous avoir appelé. Luana, vous vous souvenez de la première fois où vous êtes apparue à la télévision?
Ah, bien sûr, bien
c'était
sûr.
Quand
c'était en 2010. C'était à C'est à vous pour la Villette. Je tremblais tellement que je n'arrivais. D'abord, je m'ai trompée des caméras, bien sûr. Et puis, je tremblais tellement que je n'arrivais pas à couper. Donc, mon bras, il était complètement figé. Et puis voilà, c'était un moment de grande solitude. Non, je rigole, mais c'était très. Enfin, c'était pas facile. Moi, je viens pas de la télé à la base.
Oui, oui. Donc, c'était. Et pourquoi vous avez accepté
de faire de la télé? Ça a été tout à fait un hasard.
Tout à fait un hasard.
Une fois que. On n'accomplit jamais le rôle de la maman parce qu'on est maman à vie, mais les enfants avaient grandi et je cherchais du travail. Donc
Et la cuisine étant votre passion, c'était une évidence et vous avez continué, vous avez fait effectivement vos débuts dans C'est à vous. Et
puis il y a eu...
Plus de 5 ans dans C'est à vous,
l'aventure a duré 5 ans. Oui, pas mal, c'était génial.
C'est vous qui avez décidé de partir?
Oui, c'est moi, parce que j'étais restée très très longtemps dans cette émission. Et d'un coup, j'avais envie de faire autre chose, on va dire. Et c'est pour ça que je suis arrivée sur la chaîne My Cuisine.
Alors, l'émission que vous ne ratez jamais à la télévision ou que vous regardez en replay?
L'émission que je ne rate jamais, j'aime Secret d'Histoire. Avec Stéphane Bern.
Ouais,
j'adore, parce que pour moi, aller vers le patrimoine français qui n'est pas forcément ma culture, je veux dire, je connais un peu l'histoire française, mais pas dans les détails, et bien j'ai l'impression d'apprendre à chaque fois, donc Secret d'Histoire, je ne l'arrête jamais.
Qui tient la télécommande à la maison, c'est vous ou Paul Belmondo, votre mari?
On a deux télés, donc...
Ah, c'est chacun sa télé, chacun chez soi.
Oui, non, mon mari, c'est plutôt le sport.
Oui.
Moi, beaucoup de programmes de cuisine, je m'intéresse. Ouais. Et puis, le journal.
Mais vous, c'est vous, donc chacun sa télécommande et chacun sa télé, en
gros.
Oui, on
ne se dispute pas pour un programme.
La télé italienne, elle est mieux ou moins bien que la télé française?
Alors, je la regarde.
Ouais, vous la regardez?
Elle est moins bien, je pense.
Ouais,
elle est franchement, moins bien. Oui. Maintenant que ça fait plus d'années que je vis en France qu'en Italie, quand je la regarde, je dis waouh.
Ah oui, c'est quand même la télé italienne, Valérie, c'est quand même les femmes dénudées. Voilà. Il y a beaucoup de femmes dénudées
à la télé
italienne.
Alors, un peu moins, mais disons qu'on est
toujours n'est pas passé par l'Italie.
Oui, on est toujours vers la séduction.
Il y a Zabzab, je n'irai pas tout son message, mais pour certaines raisons de concurrence, mais elle dit qu'elle vous écoute et que vous êtes toujours de bonne humeur, pleine d'astuces, de bons conseils cuisine. C'est ma seule infidélité à Sud Radio parce que je n'ai plus confiance dans les autres. Bon, ça c'est autre chose, mais en tout cas, les gens vous aiment beaucoup. Alors Gilles, lui, regarde la télévision et il vous propose le zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors Valérie et Luana, dans les zappings de ce week-end, beaucoup de coups de gueule. Coup de gueule de l'acteur Gérard Darmon contre l'hypocrisie de Xavier Bellamy du Parti Républicain qui n'ose pas dire ses opinions réelles. C'était dans l'émission de Laurent Ruquier. Coup de gueule vendredi de Pascal Pro sur CNews qui a du mal, vous allez entendre, à maîtriser la prise de parole de ses invités. C'est une énorme colère. Coup de gueule dans ses politiques, l'invité était Jérôme Rodriguez, des Gilets jaunes, qui indiquait avoir la gueule de bois après la petite mobilisation de ce week-end. Et vous allez voir, il a fait une révélation dans l'émission « C'est politique ». Il a indiqué que les Gilets jaunes vont enlever leurs Gilets jaunes. Vous allez comprendre pourquoi. Toujours dans ses politiques, il recevait le grand chef Olivier Rollinger.
Rollinger. Il est français. Et
voilà, Rollinger, qui vient, de, il est comme ça, qui vient de sortir un livre. Il mène un combat pour une agriculture uniquement bio. Et pour commencer cette interview incroyable de Thomas Hugues sur CNews, il recevait Alain Carignon. Alors souvenez-vous, Alain Carignon a été condamné pour corruption, 29 mois de prison, et pourtant il se présente de nouveau à la mairie de Grenoble alors qu'il a eu un parcours plutôt cabossé.
Toute vie est cabossée, toute vie longue, parce qu'il y a des hauts et des bas. Dans une vie, on tombe, on se relève. Ce qui est important, c'est les conséquences qu'on tire des chutes. Et surtout, les leçons que l'on prend de façon à ce que ces chutes soient utiles. Et à partir d'un moment où on a cumulé toutes ces expériences qui font une vie et qu'on est passionné par la vie publique et par une ville, est-ce que ces expériences et cette passion peuvent être utiles à la collectivité ou non? C'est la question que je me suis posée et devant la situation de la ville, j'ai répondu oui.
Vous êtes à rebrousse-poil, à côté, pardonnez-moi, de la plaque, on va dire, quant à l'évolution de la société, je constate quand même que vous êtes mu par la peur. Vous avez peur. Vous avez peur de tout. Vous avez peur de la vie. Moi, je préférerais nettement quelqu'un vienne s'asseoir et dire « Écoutez, je vais vous dire tout de suite d'emblée qui je suis. Moi, je suis un conservateur et voici mes idées. »
Je vous rappelle qu'il y a 7 Français
mais
sur...
Mais Caroline, mais Carrie, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas.
Camomille.
Mais c'est juste insupportable.
Camomille.
Arrêtez.
Camomille.
Enfin, non, mais vous, moi, je peux plus animer une émission de télévision.
Vous savez, quand vous apprenez que dans certaines unités de formation de policiers, aujourd'hui, on entraîne des chiens à mordre des policiers vêtus d'un gilet jaune, ça commence à faire un peu beaucoup de blessés. Donc on va peut-être essayer aussi, nous, d'être un peu plus stratégiques et de revoir un petit peu notre forme d'action pour essayer de contrer toutes ces violences policières. Donc ça passe, malheureusement, par le fait d'enlever le gilet jaune aussi.
Regardez les fruits et les légumes bourrés de pesticides. C'est quoi les pesticides? Ce sont des insecticides, des herbicides et des fongicides. En fait, c'est tuer le vivant. Évidemment, si on tue à petit feu le vivant, on tue aussi l'humain. Autrefois, les campagnes, elles vivaient, et on avait affaire à des mangeurs. Et aujourd'hui, on a affaire à des consommateurs.
Évidemment, ça vous fait réagir. Oui. Le combat d'Olivier Rollinger pour une agriculture raisonnée, il a raison.
Il a complètement raison. Il faut vraiment que tous, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un grand problème, que la nourriture, c'est notre premier médicament, que c'est de là qu'on va se soigner, qu'on va vivre mieux plus longtemps. Alors si on se met tous, on va y arriver, mais autrement, ça va être trop
long. Vous cuisinez que du bio?
Je cuisine pas bio réellement. Moi, je vais dans des producteurs, je vais voir des producteurs, des circuits courts. Ça prend du temps. Ce que je vais dire, c'est que c'est pas plus cher.
Non.
Donc, essayez.
Il y a de plus en plus de sites justement qui se mettent en place pour vous livrer, pour que vous puissiez avoir à disposition des produits.
On a un panier de saison. Déjà, suivre les saisons, c'est hyper important. Arrêtons d'acheter de l'importation. Mangeons du français. Déjà, si on commence à s'éduquer dans ce sens-là, donc la saisonnalité, le Made in France, déjà, on fait un pas en avant. Et puis, tout doucement, ça se met en place. Mais c'est hyper important, c'est important.
Vous avez entendu Pascal Praud qui s'énerve, les émissions de plateau comme celle-là, vous regardez, vous êtes fan ou pas de...
J'adore Pascal. Non, mais je comprends qu'il a raison quelque part. Ouais.
C'est vrai qu'il y a des moments où c'est insupportable. Certains disent c'est une colère feinte, moi je ne suis pas d'accord, ça m'est arrivé aussi de m'énerver parfois.
Voilà.
Quand les gens se parlent les uns sur les autres. C'est
pas facile à faire le gendarme et gérer tout ça, et on veut que l'émission continue. C'est surtout, on est là pour faire de l'information. Et donc, c'est important d'avoir un bon climat.
Et puis, il y avait les Gilets jaunes Vous avez suivi un peu...
Les gilets jaunes, je ne les ai pas suivis encore.
Non. Je ne sais pas si les chiens arrivent à reconnaître la couleur de ce que dit Jérôme Rodriguez qu'on les entraîne sur des gilets jaunes. J'avais entendu parler de chiens qu'on entraîne sur des uniformes de policiers, mais des gilets jaunes, je ne sais pas. Donc,
j'ose penser que ça ne soit pas vrai, j'espère pas.
Ah, si c'est le cas, c'est quand même incroyable ce qu'il racontait. Ouais, et absolument. Puis la colère de Gérard Darmon sur les politiques qui n'avancent pas... Ouais, à vrai visage, au visage découvert. Je ne suis pas sûr que si Xavier Bellamy donnait toutes ses idées, il aurait eu autant de votes. Enfin, déjà, il n'a pas eu beaucoup de votes. Ouais. Si, vous pensez ?
Il n'a pas caché ses idées, il a assumé ce qu'il avait à dire. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Gérard Darmon. Et non, je ne suis pas du tout d'accord. Bref, Luana cuisine tous les jours à 11h30 sur My Cuisine. Alors, My Cuisine, c'est une chaîne qu'on retrouve sur SFR. Ce sera en clair, d'ailleurs, pour que les gens puissent la découvrir du 24 septembre au 24 octobre, ce sera pendant un mois sur le canal 43. Il y aura également le 20e anniversaire du super chef Jamie Oliver, qui est une des figures de la chaîne avec vous. C'est pas mal. Jamie Oliver, Luana Belmondo. Et vous cuisinez tous les matins, tous les jours,
tous
à 11h30.
Oui, j'ai un rendez-vous au quotidien avec le public et je cuisine, une cuisine simple, familiale, décontractée, justement des produits de maison, des produits de saison.
Ouais.
Et souvent, je vais chercher un peu des produits qu'on a moins l'habitude d'aller acheter.
Comme quoi, par exemple?
Je pense à des poissons bleus comme le maquereau, qui en plus, c'est un poisson délicieux, très bon pour la santé.
Il faut savoir le cuisiner. Et justement, j'ai vu en regardant vous donner un coup de peps, justement, en disant sur des choses qui peuvent être un peu plates, de trouver le petit condiment qui va, ou la sauce, l'assaisonnement, qui va le transformer.
Oui, voilà, ma mission, elle est surtout sur ça. C'est-à-dire que je vais vraiment... Ou les choux, par exemple, les choux aussi. On a du mal, ça sent pas bon, on sait pas. Même en donnant aux enfants. Vraiment, je vais vraiment rendre aux produits bons pour la santé. Leur refaire une nouvelle beauté, des façons qu'on se rend compte qu'ils sont bons. Et facile à cuisiner surtout.
Et comment on se renouvelle? Parce que vous avez fait de la cuisine pendant 5 ans, de C'est à vous. J'imagine que vous
fait 10 ans que j'ai fait de la cuisine.
Vous leur fourguez pas les recettes de C'est à vous.
Non. Ni des mes livres.
Oui, parce que je rappelle effectivement mes recettes Bonne Humeur, qui est un super livre dont je me sers, qui est paru au Cherche Midi,
absolument,
avec des recettes faciles, sympas et très bonnes.
Et puis il y a le prochain qui va sortir au même temps, qui est une série d'émissions spéciales auxquelles je suis vraiment attachée, qui s'appelle Italia Mia, Luana Cuisine Rome.
Étonnant.
Donc Rome, c'est ma...
étonnant.
Oui, ouais. Étonnant. Et puis Rome, c'est ma ville, donc ma ville natale. Donc,
alors, comment on se renouvelle?
Alors, tout le monde, il me dit tu achètes tous les magazines à cuisine qui sortent? Non, je suis désolée, je n'en achète pas. Je me les renouvelle simplement. Je sors pas mal, je vais manger, j'écoute les gens, c'est important. Je découvre les produits. Je les redécouvre d'une autre façon. Je ne sais pas comment on se renouvelle dans n'importe quel métier.
C'est comme tous les chefs. Tous les chefs ont des inspirations.
Les chefs, c'est des chefs. Moi, je suis une cuisinière au quotidien, donc ça va être beaucoup plus simple pour moi, sûrement. Mais c'est juste une envie du moment où ça vient tout seul. Je ne peux pas vous le dire.
Pourquoi
que j'en suis pas en chef. Ça me plaît être cuisinière.
Cuisinière,
même ménagère.
Ménagère.
Ça me va très bien.
Ouais.
Je me sens comme ça d'ailleurs.
La cuisine italienne est meilleure que la cuisine française ou pas?
Non, je pense que les deux sont bien. Ce que j'aime dans la cuisine italienne, c'est surtout que, on va dire, on a des super produits, même en France bien sûr, mais c'est une cuisine simple où on ne déforme pas vraiment. Donc c'est la qualité du produit qui va faire le plat.
Vous avez trouvé des bonnes tomates, vous, ou pas, cet été? Parce que moi, je cherche toujours.
En France?
Oui, en France, non.
Pas vraiment.
Hein.
Il y a 10 jours, j'en ai trouvé un peu, mais bon, il faut dire que le climat ne nous aide pas sur les tomates en ce moment.
Non, pas vraiment.
Est-ce que vous faites attention au pouvoir d'achat des Français? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui maintenant rentre en ligne de compte dans vos recettes?
C'est très important, bien sûr. Je fais attention. J'essaye toujours de proposer des recettes accessible à tout le monde, qu'on puisse vraiment, parce que très souvent on a l'impression que bien manger ça coûte cher, et en fait non.
Mais il y a un problème de transmission aujourd'hui, c'est ça que vous faites passer dans votre cuisine, c'est essayer de transmettre un savoir-faire facile et accessible à tout le monde.
Moi, je l'ai appris avec ma maman, ben ouais. Et avec la grand-mère, donc où on avait des produits simples du terroir et qui on arrivait, elles arrivaient à sublimer d'une façon incroyable. Et donc j'essaie de retransmettre, comme vous dites, tout cela. Et il faut bien sûr, on peut très bien manger. Quand on va au marché, on pense que ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est pas vrai. C'est ouais. Les grandes surfaces.
Mon grand combat, j'ai à dire de dire quand on n'a pas les moyens de bien manger une carotte, un poireau, une pomme de terre, ça fait une soupe de légumes, des pâtes avec de la tomate,
ça va très vite, c'est très très bon.
Vous
c'est
faites frais, jamais c'est bon un petit McDo, Louana?
Je vous avoue que j'ai fait des McDo quand mes enfants, alors le plus grand a 28 ans, donc il devait avoir une dizaine d'années. Ça fait au moins 18 ans que je n'ai pas touché un McDo. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut manger une fois McDo dans sa vie. On peut manger une fois par an McDo.
Des plats cuisinés.
Plats cuisinés, j'ai beaucoup de mal.
Ouais. Mickaël demande, est-ce que Jean-Paul va bien?
Merci, oui, il va bien,
il a perdu son double.
Oui, Charlot, c'était un membre de la famille.
De la famille, oui, vous partez en vacances avec vous. Et comment il va?
Bien sûr, c'est toujours difficile de perdre quelqu'un au bout des tant d'années, mais ce qui nous rend tous un peu, nous met un peu, c'est que Charles Gérard, Charlot, nous on l'appelle, il a eu une très belle vie jusqu'à la fin. Et donc,
il était très bien jusqu'à quelques heures avant sa mort. Donc,
ça, c'est important aussi.
Bon, donc Jean-Paul, vous dites que ça va. Merci Louana Belmondo d'être passée. Louana cuisine tous les jours à 11h30 sur My Cuisine, donc accessible sur les box SFR. C'est gratuit du 24 septembre au 24 octobre. On rappelle le 20e et Bouygues également sur les box de Bouygues.
223,
20e anniversaire de la superstar Jamie Oliver également. Il y a plein de programmes sympas
toute la journée
pour ceux qui aiment la cuisine.
Régaler.
Voilà, et on se régale avec vous et on attend votre livre avec impatience. Merci beaucoup Louana d'être passée.
À
tout de suite pour parler de la cigarette électronique.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va parler de la cigarette électronique. Vous avez peut-être vu la une du Parisien la semaine dernière et puis l'actualité autour de la cigarette électronique. Est-ce qu'elle est dangereuse pour la santé? Est-ce qu'il faut s'y intéresser un petit peu plus, réglementer l'usage de la cigarette électronique? L'Inde a interdit son usage. 55 millions d'utilisateurs dans le monde, un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros pour les fabricants de vapoteuses. La France est le troisième marché derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et bon, vous le savez, il y a eu 7 décès aux États-Unis suite à l'usage donc de ces cigarettes électroniques. La France, pour l'instant, refuse de légiférer. La ministre de la Santé estime que la cigarette électronique en France est plutôt surveillée, même si l'État dit faire attention. On va en parler ce matin, 0826 300 300. On attend vos réactions, vos commentaires, vos témoignages, si vous utilisez vous cette cigarette, si elle vous a permis de moins fumer, si au contraire ça n'a pas fonctionné. On va en parler avec le professeur Bertrand Dotzenberg. Bonjour professeur.
Bonjour.
Pneumologue et vous êtes vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous pensez de cette cigarette. Et Jean Dorido, qu'on connaît bien sur Sud Radio, vous êtes psychothérapeute et vous aidez à l'arrêt du tabac.
Oui.
Et c'est pour vous, alors je vais peut-être commencer avec vous, pour vous, il faut être très vigilant.
C'est sûr qu'il y a un principe de précaution et de vigilance qui doit s'appliquer incontestablement. L'OMS, au mois de juillet dernier, dans son rapport sur le tabagisme mondial, a déclaré que la cigarette électronique était incontestablement nocive. Ça mérite donc effectivement la plus grande vigilance, même si dans la foulée, c'est important de le rappeler, la même OMS a rappelé que la cigarette électronique, très très probablement beaucoup moins nocif que la fumée de cigarette, bien évidemment. Et c'est là l'aspect délicat de la question, c'est qu'il est nécessaire d'être très vigilant et en même temps, bien sûr, qu'a priori, rien ne peut être plus toxique que de la fumée de cigarette. Ouais. Donc c'est ce qui met, je dirais, toute la population des professionnels de santé un peu en porte-à-faux, dans une position difficile pour savoir finalement que dire aux fumeurs qui souhaitent décrocher par rapport à cette vaporette.
Alors, professeur Dotzenberg, je rappelle que vous êtes également président de Paris sans tabac.
Et puis la commission AFNOR sur les cigarettes électroniques.
Voilà.
Vous avez dit que la France ne légiférait pas. La France est le premier pays qui a appliqué toutes les lois recommandées par l'OMS cet été. L'OMS a dit c'est pas pour les non-fumeurs, c'est pas pour les enfants, c'est interdit depuis 2014 aux enfants. Il faut réglementer dans les locaux, c'est interdit. Il ne faut pas que ça serve de la publicité de tabac, c'est fait. Donc la France a déjà appliqué toutes les recommandations de cet été de l'OMS qui disait qu'effectivement la cigarette électronique est un produit nocif, beaucoup moins nocif que la cigarette, et ça c'est ce que j'avais déjà dit dans le rapport qu'on avait fait en 2012, mais les antibiotiques sont nocifs aussi, mais n'empêche que quand on a une septicémie, les antibiotiques ça sauve la vie.
On ne peut pas comparer la vaporette aux antibiotiques.
La vaporette est plus efficace que les antibiotiques, étant donné que la dépendance tabagique, c'est m'a dit, vous avez 50% de chances d'en mourir, quand vous avez un cancer, vous avez une chance sur deux d'en mourir, la cigarette électronique sauve des vies de façon incontestable et sérieuse. Alors incontestable, les études ne sont pas suffisantes, dit l'OMS, c'est pour ça qu'on conduit des études en France. On a une grande étude randomisée qui permettra de le prouver, mais on a déjà 260 malades rentrés. Moi, je suis persuadé dans ma pratique quotidienne que la cigarette électronique est un outil, c'est pas le seul, mais c'est un outil qui aide à arrêter de fumer. En tout cas, c'est un outil pas dangereux.
Mais une question au médecin, si c'est pas dangereux, pourquoi est-ce qu'on l'interdit aux enfants, aux moins de 18 ans et aux femmes enceintes?
Alors, il y a deux problèmes. C'est est-ce que la cigarette électronique est toxique pour la santé? La réponse est infiniment moins que la cigarette. Deuxièmement, est-ce que la cigarette électronique pourrait faire que les enfants s'en servent pour rentrer en tabagisme?
Oui, c'est la question.
Moi, j'ai la conviction que non. D'autres ont la conviction que oui sur des études bidons. Mais pour l'instant, on est un petit peu dans l'incertitude sur
pourquoi
ce côté-là.
Pourquoi bidon? On ne sait pas. Vous dites bidon, incertitude.
On sait que depuis qu'il y a l'épidémie catastrophique de cigarettes électroniques aux États-Unis, catastrophique en Angleterre, catastrophique en France, l'effondrement du tabagisme chez les enfants, dans les lycéens aux États-Unis, moins de 5% de fumeurs. Ils étaient 15% il y a quelques années. À partir du moment où quelque chose qui crée une épidémie fait que la maladie terrible qui est le tabagisme s'effondre, moi j'ai tendance à dire que c'est pas vrai.
Alors Jean de Rideau.
Oui, non, enfin je crois qu'effectivement il faut être très très vigilant. Dire que le tabagisme s'effondre, hélas, c'est une erreur puisqu'on a encore plus de 13 millions de fumeurs en France.
Je parle des enfants.
Et sur l'appel d'air, l'antichambre que pourrait être la cigarette électronique auprès des plus jeunes, comme je dirais boulevard vers la tabagie, il y a pour l'instant très très peu de recul et je pense que la plus grande vigilance s'impose. Aujourd'hui s'ouvre le procès du Mediator. On sait bien à quel point même des médicaments qui passent tous les essais cliniques peuvent s'avérer être de terribles erreurs sanitaires. Donc je pense qu'il est vraiment très très important de mettre le paquet, si j'ose dire, sur les vraies thérapies d'aide à l'arrêt du tabac, le soutien psychologique, qui est la seule chose aujourd'hui qui peut vraiment aider un fumeur à changer de comportement. Le problème de la vaporette, c'est que le fumeur ne change pas de comportement. Il reste fumeur, il continue à respirer autre chose que de l'air. Écoutez, on a 70% de risque de rechute en plus par rapport à des personnes qui n'utilisent pas la vaporette.
Mais il y a des chiffres ou pas?
Parce qu'il y a autour de nous, c'est
impressionniste. Mais moi, je vois beaucoup d'amis qui sont mis à la vaporette et qui sont retournés à la cigarette et qui n'ont pas réussi à arrêter.
Tous ceux qui prennent la vaporette et qui continuent à fumer retombent presque tous à la cigarette. Ouais. C'est parce qu'il faut que la vaporette soit suffisamment bonne, suffisamment bien, suffisamment sympathique pour qu'ils abandonnent le tabac. Donc il faut que la vaporette reste sympathique. Moi, chez les gens que je vois en consultation, en gros, les plus de 45 ans, ils fument, ils prennent des patchs du Champix et la vaporette, et au bout de 3 mois, ils arrêtent la vaporette, ils ne prennent plus rien. Et au niveau européen, il y a plus d'un quart des vapoteurs qui sont comme ça. Si on prend même aux États-Unis, il y a une étude qui vient de sortir cette semaine sur les 18-24 ans aux États-Unis, 36% des ceux qui se disent ex-fumeurs parmi les très jeunes disent qu'ils vapotent. Alors qu'il n'y a pratiquement pas moins de 5% de non-fumeurs. Donc la vaporette, même chez les jeunes Américains, est utilisée pour quitter le tabac.
Il est bien évident qu'il ne faut pas se priver des moyens d'aider les fumeurs à sortir du piège du tabac. C'est une évidence. Bien sûr, nous sommes d'accord sur ce point. Toutefois, quand j'entends le terme sympathique à propos de vaporette, c'est vrai que je ne suis pas à l'aise avec ce terme. Je crois que tout ce qui peut participer à rendre l'idée que de respirer autre chose que de l'air peut être sympathique est quelque chose de toxique, sans faire de mauvais jeu de mots. Et c'est vraiment le problème des fumeurs qui se font encore aujourd'hui piéger par des produits qui, manifestement, ne sont pas bons à respirer.
Il faut dire qu'ils sont, pour la plupart, les vaporettes et tous ces substituts, enfin, je ne sais pas si on peut employer le mot de substitut, sont produits par l'industrie du tabac.
C'est faux. En France, et majoritairement, les liquides en France ne sont pas produits par l'industrie du tabac. Alors, l'industrie du tabac, depuis 2012, depuis qu'ils ont vu que ça marchait, essaye de racheter les boîtes de vape, mais avec peu de succès. Ils vendent beaucoup des choses toutes faites
en capsule.
Tout ce qui est remplissage en France, la France a une bonne et à une fédération de l'industrie indépendante, et beaucoup, beaucoup de liquides en France sont des liquides qui n'ont aucun lien avec l'industrie du tabac.
Alors, Claude Bamberger, vous êtes président de l'EDUS, c'est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes et électroniques. Alors, ça, c'est dingue, on fait une association pour les... Pourquoi une association pour les utilisateurs de cigarettes électroniques?
Alors, pour deux raisons, en fait. La première, c'est que c'est des consommateurs, donc il faut les défendre. en tant que consommateur vis-à-vis des professionnels qui vont faire des produits, bah, on veut émettre des exigences. Alors défendre, hein, c'est pas contre des attaques, mais, mais il faut que les consommateurs soient représentés et puissent avoir des exigences sur la qualité, sur l'accessibilité. Et puis malheureusement, chose qui nous a un peu sidérés, face au pouvoir public, face à des campagnes de haine assez hallucinantes, quand on entend des gens dire c'est inacceptable de tolérer un comportement. On pourrait aller super loin sur ce genre de phrases.
Non, le comportement qui consiste à respirer autre chose que de l'air est toxique pour la personne qui est contrainte à respirer autre chose que de l'air parce qu'elle est dépendante d'une drogue. Non,
on n'est pas contraint.
Donc, on la plaint, on a envie de l'aider.
Mais je voudrais souvent. Juste préciser une chose. J'ai contacté 3 ou 4 médecins qui alertent sur la vaporette, enfin qui ont des opinions, qui ne veulent plus les exprimer en public parce qu'ils se sont fait traîner dans la boue. Il y a eu des méthodes absolument indignes où on est allé chercher des choses personnelles sur ces médecins parce qu'ils avaient osé attaquer la vaporette.
Rassurez-vous, l'AIDUCEM injurie aussi régulièrement ou
Non, mais ce que je veux dire, c'est que on sent que c'est un sujet quand même.
Alors c'est un sujet très... super touchy. Vous le voyez bien, en fait, hein, c'est très simple. Vous avez des gens. Qui quittent le tabac, qui ont l'impression, alors certains parce que ça fait des années qu'ils cherchaient à arrêter de fumer et qu'ils n'y arrivaient pas avec différentes méthodes. Certains, beaucoup plus soudainement, parce que c'est la première chose qu'ils ont utilisée ou la première fois qu'ils ont essayé. Et certains se sentent libérés d'un poids parce qu'ils avaient une angoisse. On fait peser sur les fumeurs une angoisse. Alors après...
C'est le tabac qui fait peser l'angoisse sur les fumeurs.
Non, mais en fait, personne d'autre. J'allais dire, et en un sens, c'est justifié d'être très sincère avec les gens. Et en l'occurrence, moi, j'étais fumeur, comme 99% des vapoteurs. J'ai réalisé après être passé à la vape en creusant un petit peu ces différentiels de risque. Que autant la vape ça allait, autant le tabac était beaucoup plus risqué que ce que je percevais quand j'étais fumeur. Et c'est là que le fait de faire peser beaucoup, il faut être assez clair sur les messages, il faut pas en rajouter non plus, parce qu'il y a des facteurs d'angoisse qui font peur en fait aux gens pour quitter. Mais bon, une fois que ces gens se libèrent de ce poids, sont contents et certains pour leur santé de façon très très urgente. Certains étaient malades de maladies causées par le tabac et c'était un impératif d'arrêter, c'est très difficile. D'un seul coup, on leur dit « Ah bah là non plus, c'est pas bien. Ah, ça va pas non plus. »
Mais c'est possible.
Et certains le prennent très mal. Je le comprends. Oui. On essaye, nous aussi, de calmer un tout petit peu calmer le jeu sur « Faut aussi faire la différence. » Typiquement, je le répète très très souvent, nos pires adversaires sont tristement souvent des acteurs de santé publique. Il ne faut pas confondre les motivations. Je veux dire, c'est quelqu'un qui va dire la vape, c'est pas bien, n'est pas un suppôt de l'industrie du tabac. Sûrement pas. Il y en a que j'ai croisés qui sont vraiment très, très véhéments contre la vape. C'est des gens qui essayent de lutter contre le tabagisme à leur façon. Il ne faut pas non plus. Mais c'est très difficile pour les gens. Ouais. On est dans ce. Regardez le côté complotiste. Quand vous disiez, mais c'est les cigarettiers qui fabriquent ça, si ça se trouve, c'est pourquoi ils fabriqueraient des trucs mauvais juste pour le fun?
Pas pour le fun, pour amener des gens à fumer la cigarette plus tard. Il y avait cet article hier dans le JDD, dans le labo des vapoteuses, un reportage qui était effectivement, et toutes les marques, tous les grands fabricants de tabac se sont mis à fabriquer des produits.
C'est le fantasme de l'industrie du tabac qui a quand même une population qui est dépendante. C'est-à-dire que c'est le seul produit industriel dont on sait très bien que quand on commence à le vendre à un jeune, on va l'avoir dans sa boutique pendant 30 ou 40 ans. Et le fantasme de l'industrie du tabac, c'est d'inventer la cigarette propre. C'est de conserver ce public captif avec des produits qui seraient non nocifs pour la santé. Or, ce n'est pas au pneumologue qu'est M. Dezenberg que je vais l'apprendre, et c'est du bon sens. Respirer autre chose que de l'air, ça n'est pas satisfaisant, et l'OMS le confirme.
C'est pas un moindre mal.
C'est très probablement toxique. Alors, sans doute, c'est un moindre mal, bien évidemment. Toutefois, il est essentiel que la vaporette, qui fait partie de l'arsenal thérapeutique quand un fumeur cherche à décrocher, ne masque pas les outils essentiels de l'aide au sauvage tabagique, qui est le soutien psychologique. Et ce qui est terrible, c'est que cette vaporette, et M. Dodenberg le rappelait tout à l'heure, cette vaporette qui est là pour être temporaire, pour accompagner le fumeur vers une vie sans tabac et sans autre chose que de l'air à respirer, cette vaporette commence à devenir un mode de vie, comme a été le tabac un mode de vie pour nos grands-parents et arrière-grands-parents. grands-parents. Oui. Et ça, c'est un souci parce qu'à long terme, les pneumologues en parlaient dans Le Parisien il y a quelques jours, à long terme, ça crée évidemment des inflammations et des effets indésirables.
On va revenir sur ce qui s'est passé aux États-Unis, professeur Dotzenberg, et sur les dangers qui sont soulignés. Et on en reparle avec vous dans un instant. Marc, une pause, on est ensemble sur Sud Radio. Appelez-nous pour témoigner si vous êtes mis à la vaporette. 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h-11h, avec vous, 0826-300-300 sur Sud Radio. On parle de la cigarette électronique, est-ce qu'elle est dangereuse pour la santé? On en parle avec le professeur Bertrand Dotzenberg, tabacologue, professeur de pneumologie, président de Paris Sans Tabac. Et également, vous vouliez lancer un appel, j'en profite maintenant, professeur, aux volontaires pour une étude dont la PHP est le promoteur et vous recrutez, c'est ça, des patients fumeurs?
On recrute des patients fumeurs qui fument dans l'heure du lever plus de 10 cigarettes par jour, qui vont rentrer dans un essai. On a déjà 270 malades rentrés, mais il nous en faut 700-800, qui reçoivent à la une cigarette électronique avec ou sans nicotine d'un côté et des comprimés avec ou sans varenicline, c'est le champix de l'autre. Personne ne sait ce que c'est, ni nous, ni eux. Et c'est dans les conditions d'un labo pharmaceutique enregistré, la NSM, des tampons partout, etc. C'est l'enquête que l'OMS cet été disait, il nous faut des études pour montrer que ça marche. Et pour l'instant, on trouve, sur les 260 qu'on a rentrés, ça marche plutôt de façon très, très bonne.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'appel,
il faut téléphoner, il y a un numéro de téléphone, et avec le numéro de téléphone que vous allez mettre sur votre site...
Oui, on le donnera tout à l'heure, je n'ai pas le numéro de téléphone.
Il est sur mon téléphone. Ouais. Vous téléphonez, il y a 10 hôpitaux en France qui participent, à Paris, à Nîmes, à
Rouen... Ça va aider les gens à arrêter de fumer?
Les gens sont très aidés à arrêter de fumer, parce que j'observe qu'à la fin, les gens s'arrêtent mieux que ceux que je vois en consultation. Mais c'est aussi des gens qui sont un peu plus intelligents, qui ont un niveau intellectuel suffisant pour dire « moi, je veux participer à quelque chose pour augmenter la connaissance ». Donc, c'est des gens qui sont un peu plus altruistes, c'est-à-dire qu'ils acceptent de donner un petit peu et reçoivent aussi beaucoup, parce qu'ils sont vus en consultation, on regarde bien. Donc, il y a un bénéfice pour les patients et un bénéfice pour la science et la connaissance.
Également, Jean Dorido, docteur en psychologie, hypnothérapeute, spécialiste dans l'aide au sevrage tabagique. Et vous venez tout juste de publier « Le bonheur est une science exacte » aux éditions Larousse. Et puis, Claude Bamberger, président de l'EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Professeur, juste une question quand même sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Pourquoi il y a eu des morts et des centaines de personnes atteintes de maladies pulmonaires?
Alors, aux États-Unis, les gens ont pris l'outil cigarette électronique, mais n'ont pas mis des e-liquides comme vendus en Europe, comme enregistrés en Europe 6 mois avant la commercialisation. Et je vous rappelle qu'en Europe, le directeur de l'ANSES vient de déclarer qu'il n'y avait aucun risque et pas de problème sanitaire avec la cigarette électronique. C'est rare qu'un directeur d'agence publique dise qu'il n'y a pas de risque, quand même, il s'est lié. La ministre de la Santé dit la même chose, d'ailleurs. Et donc là, il mettait du cannabis dedans, des extraits de cannabis, ce qui est pour bien, parce qu'il ne faut pas fumer de cannabis. Mais en plus, il mettait ça avec des produits, à partir de la vitamine E, qui est vendue avec des capsules dans lesquelles il y a l'huile de colza. Quand on met de l'huile dedans, moi, c'est mon interprétation, elle n'est pas encore officielle, mais on a vu des photos quand même, il y avait beaucoup d'huile dans les macrophages des alvéoles. Quand on met de l'huile dans le poumon, ça fait une pneumopathie lipidique. Le poumon est recouvert d'une membrane un petit peu comme une bulle de savon. Si vous prenez un liquide de bulle de savon, vous mettez une goutte d'huile dedans, vous ne pourrez plus faire de bulle de savon. Là, le poumon se dégonfle, ça fait une pneumopathie lipidique et c'est grave. Donc, il faut qu'il y ait des bons produits dans le commerce pour éviter que les gens bricolent.
Oui. Ce que décrit le professeur Dotzenberg est tout à fait vrai pour 80% des cas, manifestement. Toutefois, il reste 20% de cas qui ne sont pas expliqués par ce mésusage de la cigarette électronique. Et c'est ce qui a amené les autorités sanitaires à inviter à la plus grande vigilance, puisqu'il y a pour l'instant une inconnue de 20%.
Non, c'est 20% d'enfants qui veulent pas dire à la police qu'ils ont fumé du cannabis.
Mais quand même, l'OMS dit incontestablement nocive.
Je suis d'accord. Le rapport de l'OFT disait la même chose. L'OMS dit c'est incontestablement nocif dans une phrase ou au début en disant que c'est beaucoup moins nocif parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, c'est beaucoup moins nocif, mais c'est incontestablement nocif, donc il ne faut pas l'utiliser par des non-fumeurs. En Europe, selon les statistiques européennes, plus de 99% des cigarettes électroniques sont utilisées par des fumeurs ou des ex-fumeurs. C'est-à-dire que le souhait de l'OMS en Europe est bien appliqué et les choses se passent bien. On n'a pas les firmes commerciales qui font de la pub chez les enfants comme aux États-Unis. Les États-Unis, sur tous les abribus, vous avez de la pub pour la cigarette électronique et ce qui pousse les enfants à le faire. Donc,
c'est interdit en France ?
La publicité, la promotion interdite. En France, on a une loi médiane et je me suis battu beaucoup avec les gens de la vape et tout ça, parce qu'ils me trouvaient castrateur et tout ça. Moi, j'ai dit, c'est comme une voiture. Si une voiture, on met une voiture sur le marché, il faut un code de la route, sinon, c'est pas dangereux. Et puis maintenant, il y en a qui commencent à dire, finalement, d'avoir des règles en Europe, ça nous protège.
Claude Monberger.
Alors, on est d'accord sur 50%, c'est bien. Et sur le fait qu'il y ait des règles, évidemment, enfin, sachant que les règles, ça s'appelle les règles des produits de consommation courante. Moi, un des trucs qui m'a vraiment surpris au début où j'ai vapoté, j'ai regardé comme tout le monde, hein, est-ce que c'est dangereux ou pas, d'où les dangers de beaucoup de papiers qui disent que c'est dangereux à tort, ou excessivement. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que je lis que la vape, c'est fabriqué, la vapeur qu'on respire, c'est fabriqué comme les trucs de spectacle. C'est fabriqué comme des vaporisateurs qu'il y a dans les commerces, pour donner des odeurs dans un commerce. Il y a des lois quand même là-dessus, il y a des règles qui sont appliquées. Et bon, apparemment, pas tant que ça. Et ce serait sain que ces règles soient les mêmes. On a en Europe la CLP, qui est un très très bon process, qui n'ont pas aux États-Unis... qui est un défaut. On a rajouté, avec les normes AFNOR, des choses, c'est ce que je disais au début, sur la défense des consommateurs, c'est-à-dire que les consommateurs et les fabricants se mettent autour d'une table et disent qu'est-ce qu'on va faire pour faire mieux que le niveau de base de légal, qu'est-ce qu'on peut proposer, et qu'est-ce qu'on va faire pour aussi faire didactique pour des fabricants. C'est-à-dire qu'un fabricant qui se met à produire des liquides ou du matériel, ou des choses comme ça, c'est bien qu'il ait des guides qui ne soit pas du bouche à oreille comme on a dans certains secteurs. On sait ce qu'il faut faire et puis voilà. Alors là, il y a des guides qui sont très précis de ce qu'on doit mettre, ce qu'on ne doit pas mettre, comment on doit le mesurer. Et on aboutit à un résultat où on peut communiquer avec sincérité aux clients des choses qui sont formelles, hein, qui ne sont pas des revendications comme dans certains produits qu'on voit. Et puis, on peut faire des mesures et on peut se mettre d'accord avec les autorités, bien évidemment, pour qu'elles soient respectées.
Ouais,
il serait bon, à l'instar des cigarettes, que le consommateur soit averti, informé de façon très claire, qu'il est en train de consommer un produit incontestablement nocif et qu'on l'invite à décrocher, qu'on lui souhaite de décrocher
c'est
la vaporette.
Dessus. Ne peut tous pas les devenir. Sont marqués.
Oui, alors c'est marqué en tout petit. On a
bah,
des.
C'est les flacons sont petits, on ne peut pas marquer plus gros que les flacons.
Sur les flacons, il est marqué que ce soit un produit qu'il est déconseillé d'ingérer. Comme sur des produits ménagers.
Il y a marqué qu'il y a la nicotine qui est addictive.
Oui,
qui est marqué sur
parce que dans les cigarettes, oui.
Qui est toxique. Enfin, je crois que.
Il y a de la nicotine dans les cigarettes électroniques.
Un consommateur qui commence à prendre la cigarette électronique, il ne voit pas un docteur. Hein. Celui qui voit un docteur, en général, il a les traitements et la cigarette électronique. Celui qui va voir, qui va tout seul en boutique, c'est 750 000 ou 1 million de personnes qui l'ont fait. Ils vont en boutique, ils achètent des liquides avec plein de nicotine. Pendant le premier mois, ils ont plein de nicotine. Au bout de 2 mois, ils ont 1/3 de nicotine de moins. Et au bout de 3 mois, ils ont 90% de nicotine en moins. Donc la cigarette électronique est un moyen de quitter l'addiction à la nicotine. Et après ça, beaucoup s'arrêtent. Il y en a un tout petit nombre qui reste dépendant à la nicotine, comme il y a des gens qui restent dépendants aux gommes nicorettes, mais c'est très peu, moins de 10%. Et après, il y en a quelques-uns qui gardent ça en gestuel. C'est surtout les plus jeunes. C'est ceux qui, en fait, prennent la vape, non pas pour arrêter de fumer, mais pour fumer autrement. Mmh. Alors que les vieillards, après 40 ans, comme moi, donc le prennent pour arrêter de fumer, parce que le tabac, ils en ont fait le tour. Et là, ils arrêtent la vape aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ex-fumeurs, ex-vapoteurs.
Il y a des chiffres.
Une étude de l'INSERM a observé que les risques de rechute étaient 70% plus élevés avec un usage de vape que sans usage de vape.
Si on n'a pas arrêté de fumer, c'est pas une rechute.
Ce qui est faux.
C'est pas une rechute.
Les chiffres de l'INSERM ne disent pas ça. Ce serait intéressant de. C'est vraiment un sujet important. Hein, de...
Très important.
Le nombre de falsifications des données scientifiques qu'on voit et de weaponisation des données de la science. C'est-à-dire que le papier lui-même de l'INSERM explique que ces données de 70%, il les avait en 2010-2012. Et depuis. Si on regarde la suite de la courbe, les taux sont beaucoup plus bas.
Les données de la science, et on a du recul maintenant là-dessus, c'est que le tabac est une industrie qui tue une personne sur deux qui a recours à ses produits. Ça, c'est une réalité. Le tabac, les cigarettes industrielles existent depuis plus de 100 ans. Donc le tabac, la cigarette au tabac, c'est un fléau. Et n'importe quel fumeur mérite d'être pris en charge pour sortir de cette dépendance. La vaporette est manifestement moins nocive que la cigarette, évidemment, même si elle est incontestablement nocive aux yeux de l'OMS. Il est important de rappeler le vapotage ne peut pas devenir un mode de vie, ça ne peut être qu'un effet transitoire associé à une prise en charge psychologique pour aider la personne en question à se libérer de sa dépendance.
Non, mais depuis 2012 que les cigarettes électroniques marchent, 75 000 morts par an, ça fait 500 000 morts du tabac. En France, la vaporette, c'est zéro. Donc entre 500 000 morts et zéro, donc c'est incontestablement moins dangereux, comme je reprends les mots de l'OMS.
Et au-delà de ça, c'est un fumeur sauvé par jour. une vie depuis 5 ans en moins qui meurt. C'est énorme.
06, alors je donne le numéro de téléphone pour l'étude, pour participer à cette étude, c'est 06 22 93 86 09 06 22 93 86 09. Donc si vous voulez participer à cette étude pour l'arrêt du tabac et sur le test avec les vaporettes, c'est ça,
c'est l'arrêt du tabac, 3 mois l'un ou l'autre et puis suivi de 6 mois tout gratuit et avec toutes les conditions d'éthique.
Vous voyez, on a Dominique qui nous dit je connais des ados qui n'avaient jamais fumé, qui sont mis à fumer la clope électronique, c'est devenu une mode.
Oui, c'est une mode qui concurrence le tabac, c'est ça qui est important.
Allez, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, d'en redébattre. Merci à tous les trois. À suivre, commentaires de l'actualité sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.